Montesquieu, dialogue de Sylla et de Crate, 1745. Quelques jours après que Sylla se fut démis de la dictature, j'appris que la réputation que j'avais parmi les philosophes lui faisait souhaiter de me voir. Il était à sa maison de Tibur, où il jouissait des premiers moments tranquilles de sa vie. Je ne sentis point devant lui le désordre où nous jette ordinairement la présence des grands hommes. Et dès que nous fûmes seuls, « Sylla, lui dis-je, vous êtes donc mis vous-même dans cet état de médiocrité qui afflige presque tous les humains. Vous avez renoncé à cet empire que votre gloire et vos vertus vous donnaient sur tous les hommes. La fortune semble être gênée de ne plus vous élever aux honneurs. » Eucrate, me dit-il, si je ne suis plus en spectacle à l'univers, c'est la faute des choses humaines qui ont des bornes et non pas la mienne. J'ai cru devoir remplir ma destinée dès que je n'ai plus eu à faire de grandes choses. Je n'étais point fait pour gouverner tranquillement un peuple esclave. J'aime à remporter des victoires, à fonder ou détruire des États, à faire des ligues, à punir un usurpateur. Mais pour ces minces détails de gouvernement où les génies médiocres ont tant d'avantages, cette lente exécution des lois, cette discipline d'une milice tranquille, mon âme ne saurait s'en occuper. Il est singulier, lui dis-je, que vous ayez porté tant de délicatesse dans l'ambition. Nous avons bien vu des grands hommes peu touchés du vain éclat et de la pompe qui entourent ceux qui gouvernent, mais il y en a bien peu qui n'aient été sensibles au plaisir de gouverner et de faire rendre à leur fantaisie le respect qui n'est dû qu'aux lois. « Mais moi, me dit Eucrate, me dit-il, je n'ai jamais été si peu content que lorsque je me suis vu maître absolu dans Rome, que j'ai regardé autour de moi et que je n'ai trouvé ni rivaux ni ennemis. J'ai cru qu'on dirait quelque jour que je n'avais châtié que des esclaves. Veux-tu, me suis-je dit, que dans ta patrie il n'y ait plus d'hommes qui puissent être touchés de ta gloire? Et puisque tu établis la tyrannie, ne vois-tu pas bien qu'il n'y aura point après toi le prince si lâche que la flatterie ne t'égale et ne part par ton nom de tes titres, de tes vertus même? Seigneur, vous changez toutes mes idées de la façon dont je vous vois agir. Je croyais que vous aviez de l'ambition, mais aucun amour pour la gloire. Je voyais bien que votre âme était haute, mais je ne soupçonnais pas qu'elle fût grande. Tout dans votre vie semblait me montrer un homme dévoré du désir de commander et qui, plein des plus funestes passions, se chargeait avec plaisir de la honte, des remords et de la bassesse même attachés à la tyrannie. Car enfin, vous avez tout sacrifié à votre puissance. Vous vous êtes rendu redoutable à tous les Romains. Vous avez exercé sans pitié les fonctions de la plus terrible magistrature qui fut jamais. Le Sénat ne vit qu'en tremblant un défenseur si impitoyable. Quelqu'un vous dit, Sylla, jusqu'à quand répandras-tu le sang romain? Veux-tu ne commander qu'à des murailles? Et pour lors, vous publiâtes ces tables qui décidèrent de la vie et de la mort de chaque citoyen. Mais c'est tout le sang que j'ai versé qui m'a mis en état de faire la plus grande de toutes mes actions. Si j'avais gouverné les Romains avec douceur, quelle merveille que l'ennui, que le dégoût, qu'un caprice n'eût fait quitter le gouvernement. Mais je me suis démis de la dictature dans le temps qu'il n'y avait pas un seul homme dans l'univers qui ne crût que la dictature était mon seul asile. J'ai paru devant les Romains, citoyens au milieu de mes concitoyens, et j'ai osé leur dire « Je suis prêt à rendre compte de tout le sang que j'ai versé pour la République. Je répondrai à tous ceux qui viendront me demander leur père, leur fils ou leur frère. Tous les Romains se sont tus devant moi. Cette belle action dont vous me parlez me paraît bien imprudente. Il est vrai que vous avez eu pour vous le nouvel étonnement dans lequel vous avez mis les Romains. Mais comment osâtes-vous leur parler de vous justifier et de prendre pour juge des gens qui vous devaient tant de vengeance? Quand toutes vos actions n'auraient été que sévères pendant que vous étiez le maître, elles devenaient des crimes affreux dès que vous ne l'étiez plus. Vous appelez des crimes, me dit-il, ce qui a fait le salut de la République? Vouliez-vous que je visse tranquillement des sénateurs trahir le Sénat pour ce peuple qui, s'imaginant que la liberté doit être aussi extrême que le peut l'être l'esclavage, cherchait à abolir la magistrature même? Le peuple, gêné par les lois et par la gravité du Sénat, a toujours travaillé à renverser l'un et l'autre. Mais celui qui est assez ambitieux pour le servir contre le Sénat et les lois, le fut toujours assez pour devenir son maître. C'est ainsi que nous avons vu finir tant de républiques dans la Grèce et dans l'Italie. Pour prévenir un pareil malheur, le Sénat a toujours été obligé d'occuper à la guerre ce peuple indocile. Il a été forcé, malgré lui, à ravager la terre et à soumettre tant de nations dont l'obéissance nous pèse. À présent que l'univers n'a plus d'ennemis à nous donner, quel serait le destin de la République? Et sans moi, le Sénat aurait-il pu empêcher que le peuple, dans sa fureur aveugle pour la liberté, ne se livrât lui-même à Marius ou au premier tyran qui leur aurait fait espérer l'indépendance? Les dieux, qui ont donné à la plupart des hommes une lâche ambition, ont attaché à la liberté presque autant de malheur qu'à la servitude. Mais quel que doive être le prix de cette noble liberté, il faut bien le payer aux dieux. La mer engloutit les vaisseaux, elle submerge des pays entiers, et elle est pourtant utile aux humains. La postérité jugera ce que Rome n'a pas encore osé examiner. Elle trouvera peut-être que je n'ai pas assez versé de sang et que tous les partisans de Marius n'ont pas été proscrits. Il faut que je l'avoue, Sylla, vous m'étonnez. Quoi, c'est pour le bien de votre patrie que vous avez versé tant de sang et vous avez eu de l'attachement pour elle? Eucrate, me dit-il, je n'eus jamais cet amour dominant pour la patrie dont nous trouvons tant d'exemples dans les premiers temps de la République. Et j'aime autant Coriolan, qui porte la flamme et le fer jusqu'aux murailles de sa ville ingrate, qui fait repentir chaque citoyen de l'affront que lui a fait chaque citoyen, que celui qui chassa les Gaulois du Capitole. Je ne me suis jamais piqué d'être l'esclave ni l'idolâtre de la société de mes pareils. Et cet amour tant vanté est une passion trop populaire pour être compatible avec la hauteur de mon âme. Je me suis uniquement conduit par mes réflexions et surtout par le mépris que j'ai pour les hommes. On peut juger par la manière dont j'ai traité le seul grand peuple de l'univers de l'excès de ce mépris pour tous les autres. J'ai cru qu'étant sur la terre, il fallait que j'y fusse libre. Si j'étais né chez les barbares, j'aurais moins cherché à usurper le trône pour commander que pour ne pas obéir. Mais né dans une république, j'ai obtenu la gloire des conquérants en ne cherchant que celle des hommes libres. Lorsqu'avec mes soldats je suis entré dans Rome, je ne respirais ni la fureur ni la vengeance. J'ai jugé sans haine, mais aussi sans pitié, les Romains étonnés. Vous étiez libres, ai-je dit, et vous vouliez vivre esclave? Non. Mais mourrez, et vous aurez l'avantage de mourir citoyen d'une ville libre. J'ai cru qu'ôter la liberté à une ville dont j'étais citoyen était le plus grand des crimes. J'ai puni ce crime-là, et je me suis point embarrassé si je serais le bon ou le mauvais génie de la République. Cependant, le gouvernement de nos pères a été rétabli. Le peuple a expié tous les affronts qu'il avait faits aux nobles. La crainte a suspendu les jalousies. Et Rome n'a jamais été si tranquille. Vous voilà instruit de ce qui m'a déterminé à toutes les sanglantes tragédies que vous avez vues. Si j'avais vécu dans ces jours heureux de la République, où les citoyens tranquilles dans leur maison y rendaient aux dieux une âme libre, vous m'auriez vu passer ma vie dans cette retraite que je n'ai obtenue que par tant de sang et de sueur. Seigneur, lui dis-je, il est heureux que le ciel ait épargné au genre humain le nombre des hommes tels que vous. Nés pour la médiocrité, nous sommes accablés par les esprits sublimes. Pour qu'un homme soit au-dessus de l'humanité, il en coûte trop cher à tous les autres. Vous avez regardé l'ambition des héros comme une passion commune, et vous n'avez fait cas que de l'ambition qui résonne. Le désir insatiable de dominer, que vous avez trouvé dans le cœur de quelques citoyens, vous a fait prendre la résolution d'être un homme extraordinaire. L'amour de votre liberté vous a fait prendre celle d'être terrible et cruel. Qui dirait qu'un héroïsme de principe eût été plus funeste qu'un héroïsme d'impétuosité? Mais si, pour vous empêcher d'être esclave, il vous a fallu usurper la dictature, mais comment avez-vous osé la rendre? Le peuple romain, dites-vous, vous a vu désarmé et n'a point attenté sur votre vie. C'est un danger auquel vous avez échappé. Bien plus grand danger peut vous attendre. Il peut vous arriver de voir quelque jour un grand criminel jouir de votre modération et vous confondre dans la foule d'un peuple soumis. J'ai un nom, me dit-il, et il me suffit pour ma sûreté et celle du peuple romain. Ce nom arrête toutes les entreprises, et il n'y a point d'ambition qui n'en soit épouvantée. Sylla respire et son génie est plus puissant que celui de tous les Romains. Sylla a autour de lui Chéronée, Orchomène et Signion. Sylla a donné à chaque famille de Rome un exemple domestique et terrible. Chaque Romain m'aura toujours devant les yeux, et dans ses songes même, je lui apparaîtrai couvert de sang. Il croira voir les funestes tables et lire son nom à la tête des proscrits. On murmure en secret contre mes lois, mais elles ne seront pas effacées par des flots même de sang romain. Ne suis-je pas au milieu de Rome? Vous trouverez encore chez moi le javelot que j'avais à Orchomène et le bouclier que je portais sur les murailles d'Athènes. Parce que je n'ai point de licteur, en suis-je moins Sylla? J'ai pour moi le Sénat avec la justice et les lois. Mais le Sénat a pour lui mon génie, ma fortune et ma gloire. J'avoue, lui dis-je, que quand on a une fois fait trembler quelqu'un, on conserve presque toujours quelque chose de l'avantage qu'on a pris. « Sans doute, me dit-il, j'ai étonné les hommes et c'est beaucoup. Repassez dans votre mémoire l'histoire de ma vie, vous verrez que j'ai tout tiré de ce principe et qu'il a été l'âme de toutes mes actions. Ressouvenez-vous de mes démêlés avec Marius. Je fus indigné de voir un homme sans nom, fier de la bassesse de sa naissance, entreprendre de ramener les premières familles de Rome dans la foule du peuple. Et dans cette situation, je portais tout le poids d'une grande âme. J'étais jeune, et je me résolus de me mettre en état de demander compte à Marius de ses mépris. Et pour cela, je l'attaquais avec ses propres armes, c'est-à-dire par des victoires contre les ennemis de la République. Et lorsque, par le caprice du sort, je fus obligé de sortir de Rome, je me conduisis de même. J'allais faire la guerre à Mithridate, et je crus détruire Marius à force de vaincre l'ennemi de Marius. Et pendant que je laissais ce Romain jouir de son pouvoir sur la populace, je multipliais ses mortifications, et je le forçais tous les jours d'aller au Capitole, rendre grâce aux dieux des succès dont je le désespérais. Je lui faisais une guerre de réputation, plus cruelle 100 fois que celle que mes légions faisaient au roi barbare. Il ne sortait pas un seul mot de ma bouche qui ne marquât mon audace, et mes moindres actions, toujours superbes, étaient pour Marius de funestes présages. Enfin, Mithridate demanda la paix. Les conditions étaient raisonnables. Et si Rome avait été tranquille, ou si ma fortune n'avait pas été chancelante, je les aurais acceptées. Mais le mauvais état de mes affaires m'obligea de les rendre plus dures. J'exigeais qu'il détruisît sa flotte et qu'il rendît au roi ses voisins tous les états dont il les avait dépouillés. Je te laisse, lui dis-je, le royaume de tes pères, à toi qui devrais me remercier de ce que je laisse ta main avec laquelle tu as signé l'ordre de faire mourir en un jour 100 000 Romains. Mithridate resta immobile et Marius, au milieu de Rome, en trembla. Mais cette même audace qui m'a si bien servi contre Mithridate, contre Marius, contre son fils, contre Télésinus, contre le peuple qui a soutenu toute ma dictature, a aussi défendu ma vie le jour que je l'ai quittée. Et ce jour assure ma liberté pour jamais. Seigneur, lui dis-je, Marius raisonnait comme vous, lorsque, couvert du sang de ses ennemis et de celui des Romains, il montrait cette audace que vous avez punie. Vous avez bien pour vous quelques victoires de plus et de plus grands succès, mais en prenant la dictature, vous avez donné l'exemple du crime que vous avez puni. Voilà l'exemple qui sera suivi, et non pas celui d'une modération qu'on ne fera qu'admirer. Quand les dieux ont souffert que vous, Sylla, se soit impunément fait dictateur dans Rome, ils y ont proscrit la liberté pour jamais. Il faudrait qu'ils fissent trop de miracles pour arracher à présent du cœur de tous les capitaines romains l'ambition de régner. Vous leur avez appris qu'il y avait une voie bien plus sûre pour aller à la tyrannie et la garder sans péril. Vous avez divulgué ce fatal secret et ôté ce qui fait seul les bons citoyens d'une république trop riche et trop grande, le désespoir de pouvoir l'opprimer. Il changea de visage et se tut un moment. Je ne crains, me dit-il avec émotion, qu'un homme dans lequel je crois voir plusieurs Marius. Le hasard ou bien un destin plus fort me l'a fait épargner. Je le regarde sans cesse, j'étudie son âme. Il y cache des desseins profonds. Mais s'il n'ose jamais former celui de commander à des hommes que j'ai fait mes égaux, je jure par les dieux que je punirai son insolence.